Protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Diarandiaï.
Bonjour à toutes et à tous. C'est ce mardi 24 octobre, la journée internationale de lutte contre la poliomyélite. La poliomyélite, plus couramment appelée polio, est une maladie contagieuse qui touche surtout les enfants de moins de 5 ans. Grâce aux efforts mondiaux engagés pour éradiquer cette maladie, plus de 16 millions de personnes ont évité la paralysie, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Pour autant, la bataille n'est pas gagnée. Dans les pays développés, la poliomyélite a disparu, mais elle tue ou paralyse toujours dans certains pays comme le Pakistan ou l'Afghanistan. Le responsable de la polio est le poliovirus. Après s'être multiplié dans l'intestin, il s'attaque au système nerveux et peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. La maladie touche potentiellement les membres, mais aussi les muscles respiratoires, ce qui peut entraîner la mort. La maladie génère des symptômes bénins, fièvre, fatigue, céphalée, vomissement, raideur de la nuque ou douleur dans les membres. Cela dit, la personne atteinte risque de transmettre la maladie à son entourage, car la poliomyélite se transmet de personne à personne par l'intermédiaire d'eau souillée ou d'aliments contaminés. Il s'agit donc d'une infection virale très contagieuse. La vaccination est le seul moyen de prévention. Pourquoi est-il important de se vacciner? L'éradication est-elle toujours un objectif réaliste? Comment vit-on avec la poliomyélite? Pour en parler, je suis en compagnie de Frédéric Tanji, directeur de recherche au CNRS et chef du laboratoire de génomique virale et vaccination à l'Institut Pasteur. Il est également auteur de l'ouvrage « Les vaccins pour les nuls » paru chez les First Editions. Bonjour.
Bonjour.
Docteur Kamel Sennoussi, docteur en santé publique et en charge de la coordination du secrétariat de l'OMS pour le programme d'action mondiale pour les vaccins, et lui en ligne avec nous en direct des États-Unis. Bonjour à vous, docteur.
Alors bonjour, je voudrais peut-être corriger parce qu'il y a une petite erreur. Je travaille au programme polio de la fondation Bill et Melinda Gates pour l'Afrique aux États-Unis.
Merci autant pour moi. Et nous retrouverons aussi le professeur Daniel Ekra, le directeur et coordonnateur du programme élargi de vaccination de Côte d'Ivoire. En fin d'émission, nous retrouvons la chronique du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et médecin de l'équipe nationale de judo. N'hésitez pas à nous appeler, le numéro de Priorité Santé 33 1 84 22 75 75.
Priorité Santé sur RFI.
Docteur Kamel Sennoussi, j'ai commencé à décrire la maladie en introduction. Pourriez-vous définir un peu plus la poliomyélite?
Alors, la polio, c'est une maladie qui existe depuis très longtemps. On a eu des cas de polio qui ont été décrits dans la littérature depuis des siècles. Mais plus récemment, on a fait face à une série d'épidémies où on a eu des milliers et des milliers de cas. Ainsi, dans les années 80, on a à peu près 350 000 cas de polio par an. Et donc, c'est une maladie qui est à la fois grave, puisqu'elle peut provoquer le décès, mais aussi très invalidante, puisque les gens qui en souffrent présentent des paralysies qui vont les suivre toute leur vie. Et donc, ça va avoir un impact très fort sur leur vie au quotidien, avec une difficulté pour pouvoir étudier, une difficulté pour pouvoir travailler. Et donc, ça a un coût pour les gens, mais aussi pour la société. Mais heureusement, et je pense qu'on va en parler, on a deux vaccins qui peuvent prévenir la polio. Et donc, on s'est lancé il y a quelques années, dans les années 80, dans une décision qui a été prise par les États à l'Assemblée mondiale de la santé à l'OMS, une décision qui a été d'éradiquer la polio. Et ça a été dans la suite de l'éradication de la variole, puisqu'on a réussi à éradiquer la variole dans les années 70-80, et donc on a dit on va faire la même chose avec la polio, puisqu'on a un vaccin qui marche.
À Frédéric Tanji, le docteur Kamel Sennoussi vient justement de parler de ce qui est très important, c'est le vaccin, l'unique moyen de prévention. Alors il y en a deux différents, quels sont-ils?
Donc il y a un vaccin vivant et un vaccin atténué, inactivé. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin vivant? C'est le virus, et en l'occurrence, là, c'est trois virus dont la virulence a été atténuée. par culture cellulaire. Et l'intérêt de ce vaccin, c'est qu'il est administré par voie orale sur un sucre, parce que, comme ça vient d'être dit, le virus se multiplie dans l'intestin. Donc là, on a un virus non pathogène qui ne va pas donner de paralysie, qui va se distribuer et se diffuser dans l'intestin, et va donc induire une réponse immunitaire assez importante, qui va permettre aussi ce qu'on appelle la protection de horde ou de cohorte, c'est-à-dire que les individus, même non vaccinés, peuvent être protégés. Le deuxième vaccin, c'est un vaccin inactivé. Donc le premier, c'est le vaccin Sabin, parce qu'il a été inventé par un Américain qui s'appelait Sabin. Le deuxième, c'est le vaccin Salk. C'est aussi un Américain qui l'a fait. Il s'agit cette fois-ci des trois mêmes virus qui ont été inactivés.
Parce qu'il faut rappeler, en fait, qu'il y a plusieurs types de polio. Il y a trois souches.
Voilà, il y a trois souches de virus qui circulent. Et donc, il faut protéger simultanément contre les trois. Donc le deuxième vaccin, c'est le vaccin inactivé. Donc là, le virus n'est plus vivant. Ne peut plus circuler, ne peut plus se propager. Donc celui-ci, il est injecté dans le bras et il faut faire des rappels. Alors que le vaccin atténué vivant ne nécessite pas de rappel, il faut faire des rappels et naturellement il se propage pas. Donc on parlera un petit peu plus tard des risques du vaccin vivant atténué. C'est quand même le vaccin qui a été majoritairement utilisé pendant des décennies pour réduire dramatiquement l'incidence de la polio. Et dans les pays où la polio est parfaitement contrôlée, on utilise le vaccin inactivé, comme en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, etc.
Et à ce moment-là, combien de doses sont nécessaires du coup ?
Trois doses.
On peut rappeler le calendrier vaccinal.
Trois doses, et le calendrier, c'est dans la toute petite enfance, 2 mois, 4 mois, 6 mois.
Et comment l'enfant est protégé au bout de combien de temps ?
Très vite. L'enfant est protégé très très vite dans la semaine, 10 jours qui suivent la vaccination.
On va continuer de parler de cette vaccination qui est très très importante avec cette maladie qui est très contagieuse. On va à présent écouter le témoignage de Sophie. Elle a 64 ans, elle est atteinte de la poliomyélite depuis un très jeune âge. Elle le raconte au micro de Charlie Dupiot.
Moi, je suis née au Maroc, à Marrakech, et j'ai attrapé la polio, j'avais 1 an, donc en 55, et j'étais bébé, quoi. Ma mère s'est aperçue, quand je prenais mon bain, que je ne m'appuyais plus sur la jambe droite, puisque j'ai eu la polio sur la jambe droite. Donc, évidemment, affolement et tout ça, elle a pris sa fille sous le bras, et puis elle est allée à l'hôpital, et donc ils ont vu que j'avais attrapé la polio. J'ai fait un petit stage à Hendaye.
Dans le Pays Basque ?
Dans le Pays Basque, parce qu'il y avait un centre de polio. Et puis après, j'ai passé 3 ans à Garches. Ma mère est montée à Paris et j'ai passé 3 années dans l'hôpital de Garches, qui est spécialiste aujourd'hui des accidents de la route, mais aussi de la polio, tout ce qui est mécanique corporelle. À l'époque, maintenant, je pense que c'est autre chose, mais je ne sais pas.
Vous n'aviez pas été vaccinée ?
Ah mais non, parce que le vaccin est arrivé en 55-56. En fait, je suis passée à travers et comme j'étais au Maroc, même si le vaccin avait existé, je pense qu'il n'aurait pas traversé encore la Méditerranée.
Et alors, est-ce qu'on vous a dit quel traitement vous avez reçu ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Bah, des opérations. Oh, je dois être entre 7 et 8, je pense. Jusqu'à 16 ans. Après, non. Donc, les conséquences de la polio, chez moi, c'est la jambe droite. J'ai pas de muscles fessiers, c'est pour ça que je boite. J'ai pas de muscles à l'arrière de la cuisse, devant de la cuisse, j'ai un peu de muscle, et à partir du genou, j'ai aucun muscle. Ni au tibia, ni à la cheville, ni au pied. Donc, c'est pour ça que je porte une botte orthopédique sur la droite. Si elle est là, cette botte orthopédique, c'est pour me maintenir la jambe et la cheville droite. C'est-à-dire que je puisse m'appuyer dessus. Je boite toujours, mais je marche maintenant avec une canne. C'est plus équilibrant pour moi, et puis pour le dos. Mais ça aurait pu être plus grave. Enfin, oui, ça aurait pu être plus grave parce que j'ai eu de la chance, hein, parce que j'aurais pu être en fauteuil roulant, c'est-à-dire les deux jambes paralysées, fauteuil roulant. Moi, j'ai que la jambe droite. C'est-à-dire que tout d'un coup, les muscles ne répondent plus à la volonté. Moi, par exemple, la seule chose que je peux bouger, enfin, à part un petit peu quand même la cuisse, lever la cuisse, le seul truc qui marche encore, c'est-à-dire entre le synapse du muscle et la tête et tout ça, c'est l'orteil. Le gros orteil qui bouge un tout petit peu sur la jambe droite. Mais sinon, je peux essayer de vouloir, ça marche pas, quoi. Ça marche pas.
Mais vous arrivez quand même à vous déplacer, à marcher.
Ah oui, oui, oui. Le muscle de devant, je crois que c'est le quadriceps, hein. Marche, fonctionne. Donc, je peux lever la jambe et marcher.
Vous avez grandi avec cette maladie-là. Comment vous avez vécu le fait d'être atteinte de poliomyélite?
Alors, quand on est gamine, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est les enfants malades, tant qu'ils sont malades et tant qu'ils sont enfants, il n'y a vraiment pas de problème. C'est à partir de l'adolescence, là, c'est le bordel. C'est le bordel dans la tête, c'est le bordel avec les garçons, c'est le bordel partout. En gros, c'est ça. Parce que vous avez pas envie forcément d'en parler, parce que le mec qui est vachement mignon, franchement, une nana qui boite, il a pas forcément envie de sortir avec, des trucs comme ça. Donc après, là, c'est compliqué. Et en fait, disons que psychologiquement, moi, je me suis stabilisée, on va dire, en entier, hein, psychologiquement, à partir de 30 ans. Moi, quand je marche, je vois pas que je boite. Par contre, quand il y a une glace et que je vois que je boite, c'est l'horreur. C'est l'horreur la plus suprême. Il faut l'affronter. Il faut l'affronter. Et donc là, c'est difficile. Au bout d'un moment, après, quand la vie devient normale, qu'on a la chance de trouver un travail, parce que je suis pas beaucoup handicapée, donc je peux travailler.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous ne vous percevez pas comme handicapée.
Non, ben non. Mais ça, je pense que c'est parce que j'ai eu ça très tôt. Je pense que c'est une chose, si elle m'était arrivée à l'âge de 10 ans, là, je crois que ça serait très, très mal passé. Moi, j'ai jamais connu avant. Moi, je peux pas marcher dans l'herbe ou dans le sable, par exemple. Marcher pieds nus, parce qu'il me faut ma botte. Si j'enlève ma botte droite...
La botte orthopédique.
Je ne peux pas marcher. Mais j'ai toujours été habituée à ça.
Docteur Kamel Senoussi, on vient d'entendre le témoignage de Sophie. Alors, sa mère s'est inquiétée de l'état de santé de sa fille lorsqu'elle s'est aperçue d'un manque de stabilité. Est-ce qu'on pourrait rappeler les symptômes de la polio ?
Alors, tout d'abord, je voudrais remercier la personne qui a témoigné, parce que ça nous apporte beaucoup d'informations très intéressantes. C'est que tout d'abord, il y a un handicap. Et c'est vrai que cette personne qui a témoigné a eu, entre guillemets, la chance d'être dans un pays où elle a pu bénéficier d'une éducation, où elle a pu avoir un métier, etc. Et donc, finalement, son handicap a eu un impact sur sa vie, mais finalement, un impact qui a été relativement limité, si j'ose dire. Parce qu'on voit, dans les pays en voie de développement, on voit un impact qui peut être beaucoup plus traumatisant, beaucoup plus invalidant, beaucoup plus difficile sur le plan économique. Et donc, c'est vrai qu'on voit plus beaucoup de cas dans les pays occidentaux, mais il y en a encore beaucoup dans les pays du Sud, parce qu'il y a eu encore des épidémies, et puis la vaccination est arrivée un peu plus tard. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle donne un versant très positif, et qu'elle montre bien que, voilà, on a un handicap, mais on peut le surmonter. Alors, pour revenir aux signes cliniques de la maladie, c'est vrai qu'on parle de paralysie flasque qui arrive soudainement, mais c'est vrai que la plupart du temps, quand on a les premiers signes, ils sont plutôt, au début, ils sont souvent vus par la mère ou par le père, et en fait c'est plutôt une faiblesse musculaire. On se rend compte que l'enfant boite quand il marche, on se rend compte qu'il s'appuie plus sur une jambe, on se rend compte qu'il n'utilise plus très bien son bras, et donc c'est plutôt ces signes qui sont plutôt, je dirais, un peu plus faibles qu'une vraie paralysie, comme on se l'imagine. Et c'est vraiment quand on a ces signes-là, il ne faut pas hésiter à aller consulter un infirmier ou un médecin qui va avoir d'expérience et qui va pouvoir rechercher éventuellement si on a affaire à une polio. Et pour faire cela, il y a des examens qui peuvent être faits. On collecte les selles, en fait, de l'enfant, et on recherche, en fait, la présence du virus dans les selles. Et ça nous permet de confirmer ou de rejeter le diagnostic de polio. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'il y a une prise en charge qui peut être faite au niveau kinésithérapie, une prise en charge médicale qui peut permettre de réduire au maximum, entre guillemets, l'impact de cette paralysie. Et une prise en charge précoce peut permettre aussi un appareillage qui va permettre que l'invalidation, que le handicap, il va être réduit autant qu'on puisse par rapport au cas de l'enfant qui se présente avec cette faiblesse.
Mais oui, parce que Sophie nous a aussi expliqué qu'elle a subi 7 ou 8 opérations et qu'elle vit avec une botte orthopédique qui lui est indispensable. On traite comment la maladie ?
Alors, une fois que la paralysie ou la faiblesse s'installe, dans certains cas, elle va régresser de manière partielle, et puis dans beaucoup de cas, elle va persister, et dans ces cas-là, il y a une prise en charge médicale qui va à la fois consister, alors on faisait beaucoup de chirurgie dans le passé, on en fait beaucoup moins maintenant, et comme il y a une faiblesse, on essaie quelque part de bloquer les articulations pour que la personne qui souffre de cette faiblesse puisse quand même s'appuyer sur sa jambe, puisse marcher en bloquant la jambe. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a des gens, il y a des bottes, il y a des prothèses qui peuvent permettre de bloquer la jambe et permettre de marcher. Et donc c'est plutôt une prise en charge, je dirais, kinésithérapie ou d'appareillage qui va permettre de marcher. On voit aussi dans pas mal de pays en Afrique, on voit aussi pas mal de gens qui sont équipés d'un vélo sur lequel ils peuvent pédaler grâce à un pédalier qui est fixé au niveau des mains. On voit des gens qui sont sur des fauteuils. On voit donc c'est surtout une prise en charge kiné et appareillage. Il n'y a pas de traitement médical. Une fois que la paralysie s'est installée, qu'elle persiste, il n'y a pas de médicaments ou il n'y a pas de choses qui peuvent la faire régresser quand elle a persisté. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est important le message, c'est que la prévention, c'est le seul moyen qu'on a de prévenir cette maladie. Et puis, comme on va en parler, on est proche de l'éradication. On n'a jamais été aussi proche de l'éradication. Et donc, il reste encore un travail à faire de quelques années pour éliminer les derniers cas. Mais c'est la seule chose qu'on va pouvoir faire pour éviter de voir s'installer ce genre de paralysie.
De paralysie. Frédéric Tanguy, Sophie n'avait pas été vaccinée, car le vaccin n'existait pas encore. Hein, il n'était pas encore disponible, en tout cas. Mais du coup, pour quelqu'un qui a contracté la maladie, comment ça se passe au niveau des vaccins?
Quelqu'un qui a contracté la maladie, c'est trop tard. Comme ça vient d'être dit, uniquement des traitements palliatifs pour aider le.
Est-ce qu'il doit continuer de se faire vacciner?
Non, ça sert plus à rien. Il peut pas réattraper une deuxième fois la polio parce qu'il a déjà été infecté. Et s'il a eu la paralysie, il a eu une très très grosse infection. Donc il a bien évidemment développé des réponses anticorps extrêmement puissantes. Se faire vacciner ne sert plus à rien.
Donc il est important de se faire vacciner à la naissance.
Absolument, parce que c'est une maladie essentiellement de l'enfant, l'enfant de moins de 5 ans, parce qu'ensuite quasiment tout le monde a été ou vacciné ou infecté, donc il n'y a plus moyen de rattraper la maladie.
Mais est-ce qu'un adulte peut attraper la maladie?
Non, quasiment aujourd'hui plus. Il faudrait que ce soit un adulte séronégatif qui n'a jamais été en contact avec le virus. Ça peut arriver. Les problèmes aujourd'hui de l'éradication, effectivement... c'est un but global de l'OMS depuis 1988, l'éradication de la poliomyélite. C'est très difficile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a juste une maladie humaine infectieuse, qui est la variole, qui a été éradiquée, et une maladie animale, la peste bovine. C'est très très difficile d'éradiquer une maladie. Le terme d'ailleurs lui-même n'est pas un terme très très sympathique, parce qu'il faut plutôt apprendre à vivre avec les microbes qui nous entourent. Donc le vaccin, c'est une façon de vivre avec les microbes. Et on a du mal, et on voit très bien les pays qui restent aujourd'hui infestés, contaminés par la poliomyélite, sont des pays qui ont des problèmes politiques, des problèmes de guerre, et ces problèmes peuvent revenir dans d'autres pays très très vite. Et s'il y a un défaut d'approvisionnement de doses de vaccinales, ou s'il y a un refus de prise du vaccin, la maladie, tant qu'elle n'est pas éradiquée, va revenir, très sérieusement.
On va continuer de parler de cette éradication. Juste avant, on va prendre en ligne une auditrice, Oumu, qui, elle aussi, a contracté la maladie très jeune. Oumu nous appelle de Kindia, en Guinée-Conakry. Oumu, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à vos invités, à tous les fidèles auditeurs de la Radio Mondiale.
Oumu, vous avez un témoignage à nous apporter, on vous écoute.
Ok, moi, Sunny, j'ai contracté la polio à l'âge de 2 ans, d'après mes parents. À l'âge de 2 ans, je suis complètement paralysée et grâce à ça, aujourd'hui, je marche avec des béquilles.
Vous marchez avec des béquilles. Aujourd'hui, vous avez, oui. 23, vous avez 23 ans et,
oui.
Il me semble que vous vouliez poser deux questions.
Oui, j'ai deux questions à poser aux invités concernant les vaccins. Vous savez, en Afrique, plus précisément en Guinée, les vaccins, la plupart des familles sont réticentes aux vaccins. À mon niveau, moi, j'essaie de faire autour de moi, à mon entourage, de les expliquer. La poliomyélite, c'est une maladie qui paralyse. Je donne un exemple à moi-même de laisser les enfants vacciner. Comment peut-on lutter contre la poliomyélite sans les vaccins? La deuxième question aussi, j'aimerais savoir, polio égale à paralysie. Comment la maladie paralyse en fait les membranes?
Docteur, c'est aussi la question d'Oumu est intéressante. Bon, il y en a deux. D'abord, elle aimerait savoir est-ce qu'il existe un autre moyen à part les vaccins pour prévenir la maladie? Et puis, comment éviter la paralysie? Est-ce qu'elle risque de terminer paralysée toute sa vie?
Alors, pour la paralysie, malheureusement, quand la paralysie s'est installée, qu'elle a persisté après l'infection, pendant l'enfance, la paralysie va persister. C'est une paralysie qui va rester malheureusement toute la vie. Et donc, il va falloir l'appareiller. Et donc c'est ce que votre témoignage, le témoignage de cette dame rapporte, c'est qu'elle utilise des béquilles. Alors encore une fois, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que c'est une maladie invalidante, et c'est vrai qu'elle a un impact, qu'elle peut avoir un impact important sur la vie des gens. Mais c'est vrai qu'on voit aussi des milliers de gens, par exemple dans pas mal de pays en Afrique, qui ont contracté la polio et qui vivent, qui ont une famille, qui ont des enfants, qui ont un métier et qui arrivent à vivre normalement, si j'ose dire, à part ce handicap. Donc c'est vrai qu'il est important de dire que c'est une maladie grave et qui a un impact. C'est important de dire qu'on peut la prévenir, et je vais donner quelques détails de plus, mais c'est vrai qu'il faut aussi rendre hommage à tous les gens qui ont cette maladie et qui réussissent à la surmonter, et qui réussissent à avancer dans la vie, à fonder une famille, à être dans la communauté, parce qu'ils ont une volonté très forte de le faire. Donc ça, c'est important de le rappeler, pour que même les rares cas, puisqu'on a maintenant un nombre de cas très faible, on a, cette année, jusqu'à présent, on a eu une vingtaine de cas. Et je rappelle que dans les années 80, on était à 350 000 cas par an. Et l'année dernière, on en a eu à peu près une vingtaine. Donc on est vraiment très bas. Mais c'est vrai que ce qui est important, et votre auditrice l'a rapporté, c'est que malheureusement et heureusement, c'est-à-dire qu'on ne voit plus tellement de nouveaux cas de polio. Dans la plupart des pays d'Afrique, il n'y a plus de cas. C'est-à-dire les derniers cas qu'on a observés en Afrique, c'était il y a 2 ans au Nigeria. Donc on ne voit plus du tout de cas de polio. Et donc les gens, quand on ne voit plus la maladie, ils ont un peu cette réaction qui est « à quoi ça sert de se faire vacciner ?» quand cette maladie n'existe plus. Mais le risque est là. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on ait des témoignages comme votre auditrice qui explique que voilà, elle a souffert de cette maladie et il faut se faire vacciner. Il faut vacciner ses enfants parce qu'on ne sait jamais si un cas se présente et que les enfants ne sont pas protégés par le vaccin, ils pourraient contracter cette maladie. Donc la prévention, elle est critique. Et tant, comme le collègue de l'Institut Pasteur l'a signalé, tant qu'on n'a pas éradiqué cette maladie, le risque, il est toujours là. Donc il faut se faire vacciner, que ce soit selon les pays, par le vaccin oral, les petites gouttes, ou bien le vaccin injectable, ou alors les deux, comme maintenant c'est recommandé par l'OMS. Il faut se faire vacciner pour éviter de voir cette maladie toucher vos enfants.
Frédéric Tangis, ce qui est aussi intéressant, pour compléter un petit peu le docteur Kamel Senoussi, Oumou a parlé de prévention et de sensibilisation finalement autour de son entourage, parce qu'effectivement, les gens sont réticents face à cette vaccination.
Oui, on peut dire que, par rapport à ce qui vient d'être dit, que 20 cas de polio, en fonction du nombre de polio par rapport au nombre d'infectés, ça veut dire au moins 4000 personnes infectées qui n'ont pas eu la polio, qui ont été infectées par le virus, qui n'ont pas développé la maladie. Mais ces personnes-là transmettent le virus et peuvent transmettre, une personne peut transmettre, ça dépend de l'entourage, ça dépend des contacts, si on ne se lave pas les mains, etc. Il faut aussi savoir que ce virus est très très résistant aux éléments extérieurs, et qui peut persister dans les mares, dans les toilettes, dans les salles de bain, etc., dans les liquides qui restent. Une expérience avait été faite en France où du virus polio avait été déposé sur les rails du TGV, une petite goutte, et 20 ans après, les chercheurs sont revenus avec un Kleenex, ont récupéré ce qu'il y avait sur les rails après que des dizaines de trains par jour soient passés dessus, ils l'ont réensemencé en culture et le virus est reparti. C'est un virus qui est très résistant, donc il peut rester dans la nature. Donc l'éradication va être difficile. Tant qu'il va rester des cas, il va falloir au moins attendre quelques années après les derniers cas pour être sûr qu'il n'y a pas retour. Redire, effectivement, la maladie, une fois qu'elle est là, elle est irréversible. Le seul moyen, c'est palliatif, c'est aider les gens à vivre avec
cet handicap.
Alors évidemment, le plus tôt c'est pris, et le mieux c'est, parce qu'on peut faire de la kiné, on peut préparer l'enfant à vivre avec, mais la maladie est là définitivement. Très important aussi, tant que c'est pas, que l'OMS n'a pas annoncé l'éradication, et moi je pense qu'on en a encore pour des années, il faut vacciner tout le monde, tous les enfants, et c'est pas parce que la maladie est moins fréquente. Quand j'étais jeune, dans les années 70, j'avais un gamin paralysé qui était appareillé dans la classe, et environ, dans mon lycée Charlemagne, il y en avait 3 ou 4, dans ma génération, mon âge, ma tranche d'âge, donc vous imaginez, c'était énorme. Moi, ça me fait peur, la polio, parce que j'ai vu le gamin jouer au foot avec nous,
mais ça cliquetait,
il avait des ferrailles autour des jambes. Maintenant, on voit plus ça. Donc les jeunes se disent, qu'est-ce que c'est, quoi, ça, pourquoi on nous parle de la polio?
C'est pour ça qu'il est important d'en parler et qu'on en parle aujourd'hui dans Priorité Santé. Et on va rejoindre le professeur Daniel Écras, directeur et coordonnateur du programme élargi de vaccination de Côte d'Ivoire. d'Ivoire. Professeur, bonjour.
Et bonjour madame.
Professeur, depuis juillet 2011, il n'y a plus de cas de polio en Côte d'Ivoire. Quel rôle menez-vous dans le suivi de cette épidémie?
Eh bien, depuis juillet 2011, la Côte d'Ivoire a déclaré ses derniers cas de poliomyélite. Et depuis novembre 2015, l'OMS a accepté la documentation de la Côte d'Ivoire et déclaré le pays libre de polio. Mais le fait d'être un pays libre de polio ne veut pas dire que le pays n'est pas à risque. Et donc nous continuons de vacciner, comme on l'a dit tout à l'heure, de vacciner contre la poliomyélite les enfants de moins de 5 ans. Dans le cadre du programme élargi de vaccination et aussi dans le cadre de campagne de vaccination de masse.
La vaccination est-elle respectée? Est-ce que la population accepte de se faire vacciner facilement?
Oui, la population accepte de se faire vacciner, surtout dans le cadre de la vaccination de routine où les vaccins sont disponibles dans tous les centres de santé publics. Donc les mamans présentent les enfants. Notre cible, c'est les enfants de 0 à 11 mois. Et la vaccination commence, disons, à la naissance avec la dose 0. Et à 6 semaines, nous avons une première dose. À 10 semaines, la deuxième dose. Et à 14 semaines, la dernière dose. Voici le calendrier vaccinal de la poliomyélite en Côte d'Ivoire. C'est seulement dans le cadre des campagnes de vaccination de masse qu'il y a quelques réticences parce que les gens ne comprennent pas qu'il y ait autant de campagnes depuis des années contre la poliomyélite, alors que on voit de moins en cas, il n'y en a même plus de cas visibles. Donc on continue toujours de sensibiliser et il n'y a que la communication, l'information de la population pour que les gens comprennent bien le bien fondé de toutes les stratégies qui sont mises en place pour la lutte contre la poliomyélite.
Est-ce que vous rencontrez des difficultés lors de ces campagnes de vaccination?
Pas de difficultés majeures. Comme je le dis, il y a quelques personnes qui sont réticentes, mais dans le cadre des campagnes, nous mettons en place des comités de sensibilisation qui sont présidés par les membres de la communauté qui sont déjà bien sensibilisés, avec aussi les préfets qui sont et les sous-préfets. Et tous ces comités-là travaillent à pouvoir convaincre les quelques personnes réticentes. Donc, on n'a pas de soucis majeurs en termes d'adhésion aux campagnes de vaccination.
Professeur Daniel Ekra, vous avez un message à l'endroit de nos auditeurs?
Bien, le message, c'est dire que tant qu'il y a quelques cas de poliovirus qui circulent dans le monde, tous les pays sont à risque parce que la polio n'a pas de frontières. Et donc, ce peut être importé. Et donc, là où on pense qu'il n'y a plus de cas, il faut toujours continuer à vacciner, maintenir un bon niveau d'immunité des enfants, et cela va nous permettre à long terme de pouvoir donc éradiquer cette maladie.
Merci beaucoup, professeur Daniel Ekra, d'avoir participé à notre émission. Je rappelle que vous êtes directeur et coordonnateur du programme élargi de vaccination de Côte d'Ivoire. Et tout de suite, on part en Afghanistan.
Priorité santé sur RFI.
L'Afghanistan est l'un des trois derniers pays où la polio est encore endémique. 7 cas ont été rapportés cette année 2018. Pour en parler, on retrouve Sonia Ghezali, correspondante RFI en Afghanistan. Sonia, bonjour.
Bonjour.
Sonia, la polio est encore présente en Afghanistan et ses conséquences sont désastreuses. Vous l'avez vous-même constaté.
Oui, encore récemment, dans un campement de déplacés internes à Herat, dans le nord de l'Afghanistan. Vous le savez peut-être, hein, mais il y a une sécheresse très importante qui est installée depuis un an et demi dans plusieurs provinces du pays et qui touche notamment des zones qui sont contrôlées par les talibans. Des milliers de familles ont fui au cours des 5-6 derniers mois pour rejoindre les grandes villes, dont Herat, où des bidonvilles se sont créées le long de la route principale. Et j'y ai vu beaucoup d'enfants paralysés, et particulièrement un petit garçon dont je me souviens, qui restait toujours avec son de son grand-père que son grand-père portait et ne quittait jamais, une petite fille dans la même condition. Un médecin m'expliquait qu'il s'agissait d'enfants qui avaient contracté le virus, mais ces familles vivent dans des zones reculées très difficiles d'accès à cause des affrontements récurrents entre les talibans, l'organisation État islamique ou d'autres groupes armés et les forces de sécurité afghanes. L'année dernière, c'est dans le sud du pays, dans la province de Kandahar, zone frontalière avec le Pakistan, où les talibans sont très présents et influents, que 5 cas de polio ont été diagnostiqués dans un district. C'était un record, le nombre le plus élevé de cas au monde pour un seul district. Et le coordinateur des affaires humanitaires de l'ONU en Afghanistan avait d'ailleurs lancé un cri d'alarme à ce propos.
Et la situation est d'autant plus inquiétante, Sonia, que les talibans qui contrôlent ce district refusaient l'accès aux équipes médicales pour vacciner les enfants.
Oui, plusieurs équipes ont été renvoyées manu militari. Ils avaient l'interdiction d'entrer dans les villages. Les talibans se sont opposés aux campagnes de vaccination et il a fallu plusieurs mois de discussions entre des représentants de l'ONU et ceux des talibans pour qu'ils finissent par les laisser entrer et vacciner tous les enfants. Pourquoi se sont-ils opposés à ces campagnes de vaccination? Eh bien, comme au Pakistan voisin, les mêmes rumeurs circulaient dans les milieux les plus conservateurs, des rumeurs selon lesquelles les vaccins rendaient stériles et qu'il s'agissait d'une campagne menée secrètement par les États-Unis pour empêcher les musulmans d'avoir des enfants. Des rumeurs qui ont la peau dure dans les sphères les plus extrémistes, et c'est le cas dans l'Est, dans la province de Nangarhar, de Kunar. Des mollahs, des chefs religieux ont même, en collaboration avec le ministère afghan de la Santé, développé des campagnes de sensibilisation pour aller parler à la population, pour inciter les parents à emmener leurs enfants se faire vacciner. Et d'ailleurs, des médecins dans les villes près de ces zones reculées racontent que des parents emmenaient parfois leurs enfants à l'hôpital en cachette pour les faire vacciner, puisqu'il y a un vrai poids du regard des autres, de la société, et la peur aussi et surtout des plus conservateurs et des groupes armés qui font régner leurs lois au détriment de la population.
Sonia, vous parliez de la sensibilisation. Où en est justement la lutte contre la polio dans le pays ?
Eh bien, il y a eu des progrès puisque l'année dernière, 17 cas de polio ont été enregistrés dans le pays contre 50 les années précédentes. L'UNICEF s'est engagé à fournir 100 millions de doses de vaccins cette année 2018. Mais il faut aussi rappeler que près de la moitié du territoire n'est pas directement contrôlé par les autorités afghanes et l'accès pour les campagnes de vaccination dépend du bon vouloir des talibans, du groupe État islamique, de chefs locaux. Et la Commission indépendante des droits de l'homme en Afghanistan a fait part de son inquiétude quant à l'accès à ces zones. Pour les équipes de vaccinateurs, c'est toute la difficulté de l'Afghanistan avec un conflit qui s'enlise et un contexte sécuritaire qui ne cesse de s'aggraver.
Merci beaucoup Sonia pour toutes ces précisions. Docteur Kamel Senoussi, je sais que vous voulez réagir par rapport au cas de l'Afghanistan.
Alors, tout à fait. Ce que je voudrais dire, c'est que votre correspondante a décrit typiquement les problèmes auxquels on fait face pour les dernières étapes de l'éradication de la polio. C'est-à-dire que on a entendu notre collègue de Côte d'Ivoire, et on pourrait décrire la même situation dans beaucoup de pays en Afrique et par le monde, où on a réussi à éradiquer, à ne plus avoir de cas de polio dans ces pays-là. Et donc on arrive au moment où ça devient de plus en plus difficile d'éradiquer, parce que on doit vacciner des enfants qui sont la plupart du temps inaccessibles. Alors inaccessibles pour beaucoup de raisons. Ils sont inaccessibles parce qu'ils vivent dans des endroits où il n'y a pas de services de santé, qui sont très éloignés, où il n'y a pas de route d'accès, mais aussi et souvent parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des problèmes politiques. Et donc ces enfants, ils sont complètement en dehors du système de santé. Et donc on n'arrive pas à les vacciner. Alors pour les zones de conflit comme en Afghanistan, et puis aussi dans d'autres régions du monde, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un travail qui est beaucoup plus compliqué, qui prend beaucoup plus de temps, qui est de, par exemple, négocier avec ces groupes armés pour pouvoir avoir des jours de vaccination. C'est aussi travailler, et je pense que c'est l'un des points très importants, c'est travailler avec la société civile, avec les représentants des églises, des mosquées, avec les représentants des groupes communautaires, les chefs de village, et on discute avec tous ces gens-là et on leur explique comment c'est important de vacciner. Et la plupart du temps, ces gens, au contraire, ils demandent que ça, ils demandent que leurs enfants soient protégés. Et donc, il y a tout un travail à faire avec ces gens-là qui repose ensuite, et c'est peut-être le point le plus important, c'est sur les vaccinateurs. Et je voudrais ici prendre l'occasion de la Journée mondiale de la polio pour encore une fois rendre hommage à tous ces milliers de personnes qui vont de par le monde depuis une trentaine d'années pour vacciner les enfants où qu'ils soient. Malheureusement, on a eu beaucoup de vaccinateurs qui sont morts ou bien qui ont été blessés pendant les campagnes de vaccination parce qu'ils ont été dans les zones difficiles, les zones de conflit. Et donc, il faut leur rendre hommage. Sans eux, on n'arrive pas à l'éradication. Et sans eux, on n'en serait pas là où on est maintenant, parce que je le répète, on n'est plus très loin, mais c'est vrai que sans eux, on n'y arrivera pas. Donc il faut rendre hommage à tous ces vaccinateurs.
Frédéric Tanguy, toujours sur le cas de l'Afghanistan où la poliomyélite persiste, la correspondante a aussi évoqué cette réticence et ces rumeurs qui persistent autour de cette maladie, de ce vaccin qui pourrait rendre malade. On a aussi un témoignage Facebook au Tchad d'un de nos auditeurs qui dit que la confiance à la vaccination est moindre au Tchad, ça rend malade là aussi. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là pour rassurer ?
Alors, il faut rappeler, c'est curieux parce que effectivement, la politique et vaccination font ou très bon ménage ou très mauvais ménage. C'est très très drôle l'histoire parce que en fait, toute l'histoire de la vaccination polio, ça a démarré par le fait que le président Roosevelt aux États-Unis était lui-même atteint de la polio, était en chaise roulante et il est mort de la polio au début des années 50. Et c'est ça qui a initié dans ce pays une recherche intense pour isoler le virus, le cultiver, l'atténuer, faire des vaccins, etc. Et des sommes d'argent colossales qui ont été mises sur ce projet à l'époque. Et ensuite, le lancement des campagnes de vaccination. Et aujourd'hui, ou après cette énorme campagne de vaccination pendant plus d'un demi-siècle, on arrive au bout et on est heurté à des problèmes politiques, effectivement, où la vaccination est instrumentalisée. Et c'est comme chez nous, en France aussi, on a des problèmes d'hésitation vaccinale, de défiance vaccinale. Alors voilà, il faut convaincre, il faut expliquer. Et dans les pays où la polio existe encore, ça, c'est censé être plus facile à faire. Mais si évidemment les médias ne peuvent pas raconter, si les médecins ne peuvent pas circuler, si on n'a pas accès aux enfants pour les vaccinations, c'est très difficile. Donc encore une fois, c'est vraiment le problème de défiance qu'on rencontre. Il est majeur parce que quand on arrive au bout d'une campagne d'élimination, c'est pareil avec la rougeole. On n'arrive pas à éliminer la rougeole du monde. Ça sera très 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 difficile parce que il faut des couvertures vaccinales énormes. Il faut que plus de 95% de la population soit vaccinée pour que le virus ne circule plus. Donc avec la polio, évidemment, tant qu'il va rester des poches de résistance, et moi c'est la crainte que j'ai, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir un pays en guerre, en conflit politique, on va retomber dans l'obscurantisme. Et si pendant 3-4 ans successifs les doses de vaccins ne sont pas acheminées, les médecins auxquels on vient de rendre hommage, et c'était vrai que ce sont des campagnes, comme pour la variole, des campagnes exceptionnelles par des gens qui font ça sur leur bicyclette, sur leur mobylette, gratuitement, sans salaire, et qui vont se heurter, bon, soit à des difficultés géographiques, carrément la pluie, le tout ça, soit carrément à des gens qui les menacent pour les empêcher. C'est une entreprise humaine colossale, la vaccination, vers le bien-être de la population. Les vaccins, c'est 3 millions de vies sauver chaque année depuis 40 ans sur Terre. C'est le fait qu'on peut, si on veut 6 enfants, on a 6 enfants, alors qu'il y a 50 ans, pour avoir un enfant, fallait en faire 6. Donc c'est un progrès, mais hélas, des forces luttent contre le progrès et il faut que on continue de s'attaquer à ça.
Docteur Senoussi, il y a un programme de vaccination mondial, on l'a dit, mais il n'empêche, il existe des cas de polio dans le monde, j'ai cité le Pakistan, l'Afghanistan. Est-ce qu'il y a d'autres pays concernés? J'ai fait mes recherches, bien entendu. J'ai vu qu'il y avait des cas de polio sauvage en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe concrètement là-bas? Est-ce que le virus est apparu de nouveau?
Alors, il y a une complexité qui est que dans des cas où la vaccination de base est très faible, où on a une immunité de groupe qui est très faible, donc dans la plupart du temps, dans les zones où justement on n'a pas vacciné depuis des années, dans les zones où il y a des conflits, où on a un accès difficile, il se peut que le vaccin qu'on utilise, le vaccin oral, celui des petites gouttes, peut chez certains enfants, et c'est très rare, c'est à peu près un cas sur 3 millions, le vaccin peut provoquer une paralysie. Donc c'est, comme je l'ai dit, c'est très rare, mais ça arrive. Et ça arrive dans ces contextes très spécifiques. Donc c'est des situations très spécifiques et très rares auxquelles on peut répondre. C'est-à-dire que En RDC, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une épidémie. Il y a à peu près, cette année, à peu près 18 cas de polio dérivés du vaccin. C'est-à-dire que le vaccin oral, qui est un vaccin vivant, chez des enfants particuliers, va provoquer cette paralysie. Donc on a une réponse qui est en cours, c'est-à-dire qu'on revaccine les enfants, on vaccine tous les enfants qui n'ont pas été vaccinés, et on interrompt la transmission de ce virus très rare. Et on y arrive, c'est-à-dire que les derniers résultats, on a encore eu une campagne qui s'est terminée il y a une semaine en RDC, dans les anciennes provinces du Katanga, mais aussi dans le nord de la RDC, et on a obtenu de bons résultats et un taux de couverture qui est très bon de ces campagnes, et on observe la diminution, c'est-à-dire on n'a plus de cas depuis le mois d'août de ce virus très rare. Donc on a quand même une réponse dans ces cas-là, et on arrive à juguler cette épidémie. Et
du coup, docteur Kamel, c'est aussi pour un peu comprendre davantage, à partir de quand on parle d'éradication de la maladie?
Alors, on a tout un processus qui a été mis en place par l'Organisation mondiale de la santé, où on s'assure qu'il n'y a plus de cas, en étant sûr que le système de surveillance, parce que c'est un des éléments importants de l'éradication, c'est de mettre en place un système de surveillance qui va pouvoir identifier n'importe quel cas où qu'il se trouve sur le territoire. Donc, quand on a mis en place ces systèmes de surveillance, il faut un certain délai, qui est à peu près de 3 ans après le dernier cas. Et si pendant 3 ans, on n'observe pas de cas de paralysie liée à la polio, le pays est déclaré libre de polio. Et ensuite, il faut attendre que tout un continent soit libre de polio. Et on attend encore une fois 3 ans pour être sûr qu'il n'y a plus de cas, pour dire ensuite, voilà, tout ce continent a été libre de polio. Et quand on aura tous les continents qui auront été libres de polio, on attendra encore une période de 3 ans et on dira, voilà, le monde, l'humanité a enfin réussi à se débarrasser de la polio, et donc on a éradiqué, et donc on aura fini le travail, et on pourra passer, j'espère, à d'autres maladies, comme mon collègue l'a signalé, la rougeole aussi est une maladie qui est quand même très fréquente et qui provoque beaucoup de décès, et donc on espère que le plus vite on aura fini ce travail de polio, le plus vite on pourra utiliser les moyens qui ont été mis à disposition pour d'autres maladies.
En tout cas, vous y croyez, vous, à cette éradication totale de la maladie, docteur Kamel Sennoussi?
Alors, c'est vrai que c'est difficile, il ne faut pas se cacher, faut pas se voiler la face, c'est difficile. Ces dernières années sont difficiles parce qu'il s'agit d'atteindre les enfants qui ne sont atteints par rien. On va dans des villages où il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'infirmier, il n'y a pas d'école, il n'y a pas. Donc on est vraiment dans des zones qui sont reculées ou des zones qui sont en conflit, donc c'est difficile, on va pas mentir. Mais quand même, on voit des résultats. Votre correspondante en Afghanistan, elle a donné les chiffres pour l'Afghanistan. On observe quand même la diminution du nombre de cas.
Ce qui peut être très optimiste pour nous. En quelques mots, Frédéric Tanguy, dites-nous, vous, si vous pensez que cette maladie pourra être éliminée un jour.
On a réussi à éliminer la variole, donc on devrait pouvoir réussir à éliminer la polio. C'est un grand espoir, effectivement, et ce serait une grosse réussite pour l'OMS et pour la communauté médicale et scientifique mondiale.
Merci beaucoup, Frédéric Tanguy, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et chef du laboratoire de génomique virale et vaccination à l'Institut Pasteur. Vous êtes également auteur de Les vaccins pour les nuls, paru chez First Edition. Merci également au docteur Kamel Sennoussi, docteur en santé publique et en charge de la coordination du secrétariat de l'OMS. Vous êtes médecin spécialiste en santé publique et épidémiologique, membre de l'équipe du programme d'éradication de la polio à la Fondation Bill et Melinda Gates. Vous avez aussi travaillé au ministère de la Santé en France, à l'OMS, à l'UNICEF également. Et merci d'avoir participé aussi à cette émission en décalage horaire terrible, puisque vous nous appelez des États-Unis. Merci également au groupe d'intervention en santé publique et épidémiologique, docteur Jean-Marie Millet-Liry et professeur Pierre Saliou. Ils nous ont aidés à préparer cette émission.
Priorité santé sur RFI.
Place à la chronique de Jean-Marc Sen. Docteur Sen, vous nous parlez souvent des bienfaits de l'activité physique. Aujourd'hui, vous vous intéressez aux supporters du petit écran. Est-ce que regarder un match de football devant sa télévision est dangereux pour sa santé?
Eh ben bonjour Diara. Eh oui, il y a des risques. Ah oui, parce que bière, soda, chips, hein, c'est le menu typique du supporter et du téléspectateur. Eh ben ça évidemment, c'est un mélange qui est détonnant. Et puis la question justifie, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément en fait de supporters hein, et qui aiment le football, particulièrement cette année où vous savez qu'il y avait une coupe du monde de football. Alors lorsqu'on interroge d'ailleurs tous ces supporters, eh ben ils disent manger moins bien que d'habitude et d'avoir pris du poids durant toute la durée du tournoi. Et donc rester assis et manger des chips, évidemment ça c'est le duo gagnant pour pouvoir prendre du poids. Mais on sait que c'est aussi dangereux pour le cœur. Hein. Et ceux qui prétendent avoir frôlé la crise cardiaque, eh bien finalement ne croient pas si bien dire, parce que il y a des chercheurs qui pensent que la tension émotionnelle qui est provoquée par le suivi justement de ces matchs de football est un véritable facteur de risque. Ça augmente le rythme cardiaque, il y a une élévation de la pression artérielle, on peut même voir quelquefois des défauts de vascularisation du cœur et même l'adrénaline. Le pic d'adrénaline peut même donner quelquefois des troubles du rythme cardiaque.
Donc on n'est pas tellement en sécurité assis dans un fauteuil, il faudrait un certificat médical pour regarder un match.
Absolument, oui, presque. D'ailleurs, il y a de nombreuses études qui vont dans ce sens. Regardez, en 1998, il y a un match Angleterre contre l'Argentine. Et là, on voit une hausse des admissions pour infarctus du myocarde de près de 25%. 2006, Coupe du Monde en Allemagne, le nombre d'urgences cardiaques a été multiplié par 2,66 à chaque fois que la Mannschaft entrait en jeu. Alors, il y a même une étude médicale qui a été menée pendant près de 26 ans à Dijon, de 86 à 2012, et qui montre que le nombre d'accidents vasculaires cérébraux était plus important les soirs de matchs de football, avec une augmentation sensible de 5 à 15% lors des grands événements footballistiques comme la Coupe du Monde. Alors, et là encore, selon les chercheurs dijonnais, les émotions que provoquaient ces matchs, favorisaient l'apparition d'accidents vasculaires cérébraux. Alors, comme pour les crises cardiaques, avec pour facteur de risque l'hypertension, le diabète, le cholestérol, et puis la fameuse mauvaise hygiène de vie.
Et est-ce qu'on doit attribuer cette recrudescence de ces accidents uniquement au stress émotionnel?
Alors, en effet, il existe d'autres facteurs, parce que là, il s'agit d'une analyse statistique. Alors, c'est vrai que ce stress émotionnel est toujours entouré d'autres circonstances et d'autres facteurs qui semblent, bien sûr, qui sont susceptibles d'influer. Bon, évidemment, il y a le grignotage d'aliments riches en graisse, les chips, cacahuètes et autres pizzas. Et là, on sait que la malbouffe est un facteur de risque cardiovasculaire à part entière. La consommation de cigarettes qui souvent est augmentée, là aussi, c'est un facteur de risque. Et puis, tout simplement, l'oubli de la prise de médicaments est un risque réel pour les individus qui sont à risque coronarien. Et puis, il faut noter qu'il y a plusieurs études qui rapportent que pendant les Coupes du Monde de football, on voit une augmentation du risque du nombre de tentatives de suicide, d'accident de la route, de conduite à risque sexuel ou autre, de violence en général. Alors, on pourrait se dire vraiment qu'il serait bon de relativiser finalement et de dire à nos éditeurs qu'après tout, ce n'est que du foot.
Merci Jean-Marc. Et priorité touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de l'émission, Steven Hesley, Assitou Samaki, Ophélie Lassend et Juliette Brault. Demain, dans Priorité Santé, nous parlerons des infections sexuellement transmissibles. Si vous voulez témoigner ou poser une question, n'hésitez pas, le numéro de téléphone de l'émission, c'est le 33 1 84 22 75 75. Il y a aussi notre page Facebook Priorité Santé.
Santé avec Suno Assurance qui vous propose l'assurance habitation pour protéger vos biens, vos proches et votre voisinage. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.